Vous écoutez RFI, il est 22h ici à Paris, 20h en temps universel.
Romain Ozoui.
Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal en français facile, présenté ce soir en compagnie de Sébastien Duhamel. Bonsoir Sébastien.
Bonsoir Romain, bonsoir à tous.
À la une de l'actualité ce soir, John Bolton licencié. Le président américain Donald Trump décide de se séparer de son conseiller à la sécurité nationale, et cela dans un contexte diplomatique qui est tendu.
Une taupe à Moscou. Une taupe, c'est un espion. Les médias américains affirment qu'un homme a travaillé au Kremlin pour les États-Unis pendant plusieurs années. Il aurait même réussi à photographier des documents sur le bureau du président russe, Vladimir Poutine.
La nouvelle Commission européenne présentée aujourd'hui, sa présidente Ursula von der Leyen a fixé ses deux priorités, l'environnement et le numérique.
Et puis on suit le match de l'équipe de France de football face à Andorre. Rencontre comptant pour les qualifications de l'Euro 2020. Les Bleus mènent 2-0. C'est la seconde période. Nous irons au Stade de France à la fin de cette édition.
Les journaux
en français facile.
En français facile.
Entre les deux hommes, les sujets de désaccord étaient nombreux. Donald Trump a décidé de limoger John Bolton.
Et fidèle à son habitude, le président américain l'a annoncé dans un tweet dans lequel il écrit ceci. « J'ai informé John Bolton que nous n'avions plus besoin de ses services à la Maison-Blanche ». John Bolton est le troisième conseiller à la sécurité nationale de Donald Trump à être limogé. Éric Desalves, envoyé spécial permanent de RFI aux États-Unis.
C'est un limogeage de plus façon Trump, surprise, violent et spectaculaire. J'étais en désaccord avec nombre de ses suggestions, tweet le président américain, alors que Bolton avance une version différente, laissant entendre que ce serait plutôt lui qui aurait démissionné. Cet énième départ renforce en tout cas l'impression de chaos au sommet de l'administration Trump, et ce dans un climat diplomatique tendu et incertain. Depuis plusieurs semaines, Washington envoie en effet des signaux contradictoires. D'abord sur le dossier iranien, entre fermeté et discussion, le départ de Bolton intervient aussi 48 heures après l'annulation d'une rencontre secrète avec les talibans. Autant de sujets sur lesquels Trump était en désaccord avec son conseiller à la sécurité nationale, par ailleurs hostile à sa politique de la main tendue au leader nord-coréen Kim Jong-un. John Bolton est connu pour ses visions va-t-en-guerre, violemment opposées à toute idée de multilatéralisme, partisan d'une Amérique militairement interventionniste. Il n'a jamais masqué son désir de changer de régime en Iran et aurait reproché à Donald Trump son manque de fermeté sur ses dossiers. Son départ offre de nouvelles opportunités diplomatiques, commande donc le président d'International Crisis Group sur Twitter. Espérons, écrit-il, que le président américain les saisira. Éric Desalves, San Francisco, RFI.
Et ce soir, l'annonce du départ de John Bolton est largement commentée aux États-Unis, mais également à l'étranger, notamment en Iran. Un haut responsable iranien, un conseiller du président Hassan Rouhani, voit à travers le limogeage de John Bolton le signe clair que la campagne de sanctions contre son pays est un échec.
Les États-Unis qui se retrouvent au cœur d'une affaire digne d'un roman d'espionnage.
Oui, ce sont des révélations de plusieurs médias américains. Pendant plusieurs années, un homme aurait travaillé pour les États-Unis au Kremlin. Le Kremlin, c'est le centre du pouvoir russe. On appelle cela une taupe, c'est-à-dire un espion. Cet homme, donc, aurait été jusqu'à photographier des documents déposés sur le bureau de Vladimir Poutine, et il affirme que le président russe a personnellement organisé l'ingérence russe dans la présidentielle américaine de 2016, donc la participation de la Russie dans cette élection. Depuis, l'homme aurait été exfiltré par les États-Unis, c'est-à-dire qu'il est rentré chez lui à la demande de Washington. Voilà donc pour la version des médias américains, mais ce n'est pas la version défendue par la Russie qui s'est exprimée depuis les révélations de cette affaire. Correspondance à Moscou de Jean-Didier Revoin.
Pour Dmitri Peskov, porte-parole de Vladimir Poutine, Oleg Smolenkov ne disposait pas des contacts qui lui sont attribués par CNN avec le président russe. Interrogé par la presse, il a toutefois renoncé à reconnaître que l'ancien collaborateur était rattaché au service de Yuri Utchakov, aide de Vladimir Poutine en charge des affaires internationales, au motif qu'il n'était pas possible de divulguer toutes les informations relatives à un employé de l'administration présidentielle. Pour la même raison, il n'a pas révélé les motifs de son licenciement il y a quelques années. CNN a justifié la nécessité nécessité d'exfiltrer la source de la CIA qui avait ses entrées au Kremlin à cause de la vantardise de Donald Trump, qui aurait pu révéler son existence pour épater ses invités. L'agence lui avait reproché en mai 2017 d'avoir divulgué des informations secrètes au ministre russe des Affaires étrangères lors d'une rencontre à la Maison Blanche. Devant la presse, Sergueï Lavrov a démenti cette information, soulignant qu'aucune information secrète, ni même étatique, n'avait été échangée durant sa rencontre avec le président américain. Jean-Didier Revoin, Moscou, RFI.
Également dans l'actualité de ce mardi, la promesse de Benjamin Netanyahou.
Le premier ministre israélien annonce que s'il remporte les élections législatives qui ont lieu dans une semaine, il annexera une grande partie de la Cisjordanie occupée. L'annexer, cela veut dire qu'elle deviendrait israélienne. Sont concernées la vallée du Jourdain ainsi que la partie nord de la mer Morte. Cela représente plus d'un tiers de la Cisjordanie. À travers cette annonce, Benjamin Netanyahou tente de séduire l'électorat des colons juifs, alors qu'on annonce un duel lors des législatives, duel donc entre le Premier ministre et l'ancien chef de l'armée israélienne, Benny Gantz.
La nouvelle commission européenne, Romain, a été dévoilée aujourd'hui.
Oui, ce poste clé de Bruxelles, qui est occupé depuis près de deux mois par l'Allemande Ursula von der Leyen. Elle a donc aujourd'hui présenté l'équipe qui va travailler avec elle. Alors la parité est presque parfaite, puisque cette équipe est composée de 13 femmes et 14 hommes. Les deux nominations les plus importantes à retenir, le social-démocrate Frans Timmermans, qui sera chargé de coordonner les travaux sur l'écologie, et la libérale danoise Margrethe Vestager, qui devra superviser les programmes pour adapter l'Europe à l'ère du numérique. Le numérique et l'écologie, donc, qui vont être les deux grands chantiers qui attendent la nouvelle présidente de la Commission. Béatrice Léveillé.
Ursula von der Leyen va diriger une commission plus équilibrée et mieux armée que la précédente, avec un agenda politique ambitieux. Au programme l'écologie, Ursula von der Leyen promet un pacte vert avec la neutralité carbone en 2050, une taxe carbone aux frontières, une réduction des gaz à effet de serre de 50% au minimum dès 2030 et une banque européenne du climat avec des investissements à hauteur de 1000 milliards d'euros sur les 10 prochaines années. Deuxième priorité, le numérique et l'intelligence artificielle. Il s'agit de poursuivre le combat pour contrôler les géants américains du numérique. Troisième priorité, l'état de droit qui doit s'imposer à l'est du continent dans des pays dirigés par des populistes comme la Pologne ou la Hongrie. Il y a aussi les dossiers urgents comme le Brexit. La Commission devra gérer les relations futures avec le Royaume-Uni, les migrations avec une meilleure répartition des migrants, les tensions commerciales avec les États-Unis et la Chine. Enfin, la nouvelle Commission devra boucler le budget européen pour les 7 prochaines années.
Béatrice Léveillé du service international de RFI.
RFI, justement, où il est 20h ici à Paris et on sport maintenant. L'équipe de France de football affronte actuellement l'équipe d'Andorre.
Oui, c'est un match, Sébastien, qui compte pour les qualifications de l'Euro 2020. C'est un match qui intervient quelques jours après la victoire de l'équipe de France contre l'Albanie, également pour les qualifications de l'Euro 2020. La rencontre se dispute au Stade de France où se trouve pour RFI Olivier Pron. Olivier, on joue actuellement la seconde période. Est-ce que les Bleus mènent toujours 2-0?
Oui, ils auraient même pu, il y a quelques secondes, aggraver le score. Il y a une tête superbe. Est-ce que c'est d'Olivier Giroud? On n'a pas eu l'occasion de revoir encore de ralenti. C'était sur un corner, bref, transversal. Le ballon qui retombe, mais du bon côté de la ligne pour les Andorrans. Attention, là, encore une nouvelle tentative pour Corentin Tolisso. Mais ça passe au-dessus. Donc 2-0 pour les Bleus. But marqué à la 18e minute pour le premier. Passe d'Ikoné pour Kingsley Coman, qui est venu ajuster le gardien Gomez. Troisième but en deux matchs pour Kingsley Coman. Vraiment de retour au plus haut niveau avec le Bayern Munich et avec l'équipe de France cette semaine. Et puis le deuxième but, alors qu'entre-temps il y a eu un pénalty, un nouveau pénalty manqué par Antoine Griezmann. Samedi, il avait frappé sur la barre. Et bien là, c'est Gomez qui a arrêté sa frappe. 1-0 à la mi-temps, le deuxième but. 52e, juste après le retour des vestiaires, un coup franc de Griezmann. Bah, comme samedi, il rate un pénalty, mais il se rattrape en offrant une passe décisive. Coup franc déposé, véritablement, sur la tête de Clément Langlais, qui est venu tromper Gomez. C'est son premier but en bleu pour le défenseur central de Barcelone.
Et donc, 2-0 pour l'équipe de France. Merci, Olivier Pron. En direct du Stade de France pour RFI. Ainsi s'achève ce journal en français facile. Merci Sébastien Duhamel.
Merci à tous.
Merci à Claude Battista qui était ce soir à la réalisation de ce journal en français facile. Et merci à vous de nous avoir écoutés. Il est 22h10 ici à Paris.